Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 81e épisode. Dans cet épisode, je vais parler de deux mythes qui, en réalité, n'en font qu'un. Le mythe que le BDSM est très codifié et le mythe qu'il est très protocolaire. Première partie, pourquoi cet épisode ? Ces deux mythes que je vais relier entre eux parce que derrière la mentalité est à peu près la même, on les trouve régulièrement dans des articles, parfois on en entend parler dans des forums, on trouve des références à ces conceptions dans des interviews, dans des livres, bref, assez régulièrement on voit passer cette idée-là. Soit on vous dit que le BDSM est codifié, très codifié, soit on vous dit qu'il est plein de protocoles. Cette façon de vous présenter les choses, elle est avant tout présente de façon très importante, aiguë, dans certains milieux du BDSM qui représentent une infime minorité des personnes qui font du BDSM, et ces personnes-là le diffusent régulièrement, propagent ces idées-là à chaque fois que donc il y a des interviews, des reportages, etc., ou même sur les forums, ce qui maintient en vie cette notion, même si elle est totalement absurde. Le souci, c'est que ces deux mythes sont toxiques, ils sont très toxiques. Dans chacun de mes épisodes consacrés à des mythes, je précise que certains mythes sont plus nocifs, plus toxiques que d'autres, plus répandus ou moins répandus, ça dépend. Celui-ci, dans ma perception, il est relativement répandu, il existe depuis très longtemps, et il fait partie de ceux qui sont les plus nocifs. Certains des mythes sur le BDSM sont pas très importants ou tellement périphériques qu'on pourrait les ignorer. Ces deux-là, non, on peut pas les ignorer. Le souci principal, je pense que vous voyez directement avec l'idée de codifier, éventuellement l'idée protocolaire, c'est que cette idée vend la notion que pour pouvoir faire du BDSM, il faut connaître un certain nombre de choses, les codes, les protocoles. Bref, vous devez faire vos devoirs, comme on dit, avoir fait des recherches sur ces soi-disant codes, etc., avant d'avoir le droit, entre guillemets, de faire du BDSM. Évidemment, ça porte préjudice avant tout à qui ? Aux personnes qui s'intéresseraient au BDSM, qui ont des curiosités, ou qui veulent débuter le BDSM. Parce que là, évidemment, on vous met un gros obstacle sur votre route. Prenez l'exemple du code de la route, vous pouvez pas improviser d'aller conduire comme ça sans avoir appris le code de la route, évidemment. Le code de la route, c'est un gros bouquin qui est épais, ça prend quand même du temps pour l'apprendre, pour apprendre toutes les nuances de tous les panneaux, et les règles en plus qui vont avec. Imaginez que ce soit la même chose pour BDSM, ça demande forcément un très gros effort en amont, à condition que ce soit vrai, et ça ne l'est pas. Je vais vous expliquer que c'est totalement bidon dans la suite de cet épisode. Deuxième partie, codifié, protocolaire, de quoi parle-t-on exactement et d'où viennent ces notions ? Avant de vous donner des arguments qui démontent complètement l'idée que le BDSM serait codifié, protocolaire, etc., je vais un petit peu vous faire un résumé de la situation de exactement qu'est-ce qu'on peut trouver comme argument, présentation qui propage ce mythe. Et je vais commencer par vous rappeler très brièvement qu'est-ce qu'on entend par protocole et code, codifié si vous préférez. Le protocole, ce sont les règles qu'on doit observer. Typiquement, ça va être quelque chose du genre, quand il y a un repas, par exemple, à l'Élysée, ce genre de choses, il va y avoir tout un tas de règles qui sont mises en place pour organiser un repas, organiser la visite, par exemple, du président ceci, de la présidente cela, etc. C'est le genre de choses, par exemple, dont vous avez forcément entendu parler avec le protocole extrêmement important pour Louis XIV, le Roi Soleil, où vous avez probablement entendu à l'école parler des histoires avec les courtisans qui donc pouvaient assister au petit lever, grand lever, ce genre de choses. Les codes codifiés, là ça va être l'organisation, le fait de regrouper en fait des textes, des coutumes, etc. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est le code de la route, bien entendu. Il est clair que ce genre de choses ont totalement du sens dans certains contextes. Le code de la route, c'est un super exemple. Les protocoles, vous en avez qui sont utilisés parfois dans la vie de tous les jours. Vous en avez que vous utilisez sans même le savoir. Par exemple, en informatique, il y a énormément de protocoles qui sont utilisés pour faire marcher, par exemple, votre email. L'email, c'est un protocole, en fait. Donc ce genre de choses ont totalement du sens dans plein d'endroits. Mais est-ce qu'ils ont du sens ou pas dans le BDSM ? On va tout de suite en discuter. Je voudrais commencer par vous présenter deux exemples que j'ai trouvés dans des articles, qui sont des exemples que je trouve très représentatifs des croyances qui sont reliées à ça. C'est un article bien connu, que je vais pas citer, qui avait fait des vagues lors de sa parution, parce que l'auteur, un soi-disant journaliste, avait dit des choses sur des munchs qui étaient sur un ton moqueur, enfin, il avait une mauvaise attitude, il était hypocrite, ça a pas vraiment plu, et ça a fait des vagues vraiment justifiées. Mais ce qui m'avait marqué, entre autres, c'était deux citations de deux personnes qu'il avait, d'après ce qu'il écrivait, rencontrées lors d'un munch. Je vous rappelle, un munch est une réunion informelle pendant laquelle on discute de BDSM et qui a lieu en public. Les deux citations étaient « En parlant de la comparaison entre le BDSM en France et à l'étranger, une personne au munch donc disait à propos de la France, j'ouvre les guillemets, « Ici, c'est très codifié. » Fin des guillemets. Une autre personne disait, elle, toujours à propos de la France, j'ouvre les guillemets, « Les codes du milieu sont un peu pesants. » Je ferme les guillemets. Quand j'avais lu ça, ça m'avait frappé, ça m'avait choqué, parce que je connais quand même très bien le BDSM. À ces époques-là, j'allais à des munchs, donc je me rendais bien compte de ce qui s'y passait. J'avais été à des soirées, je me rendais bien compte de ce qui s'y passait, avec les positifs et les négatifs. Mais je peux vous dire une chose, c'est que non, il n'y avait pas de codification, de code du milieu, c'est n'importe quoi. Je vais en parler dans la troisième partie d'ailleurs. Je vous expliquerai dans la partie suivante comment c'est possible que des personnes aient ce genre de perception alors que c'est un total non-sens. De façon plus générale, vous pouvez aussi trouver donc pas mal de références à des choses qui vous sont présentées comme étant des évidences du BDSM, des protocoles, des codes, des coutumes en fait, qui vous sont vendues vraiment comme étant c'est comme ça, c'est normal, etc. Je vous prends quelques exemples. Vous avez par exemple la cérémonie des roses. La cérémonie des roses, c'est une cérémonie, donc, comme son nom l'indique, qui est utilisée pour faire ce qu'on appelle un mariage BDSM. Évidemment, ça n'a rien d'officiel, c'est pas un mariage légal, entre guillemets, hein, bien sûr. C'est vraiment quelque chose totalement dans une optique BDSM, et qui est fait entre personnes qui se connaissent, avec des invités, etc. C'est quelque chose qui existe, mais c'est pas pour autant que ça en fait un code, un protocole, ou au moins quelque chose d'évident dans le BDSM. J'en reparlerai tout à l'heure. Vous trouverez des gens qui vous vendent ça comme ça remonte à des siècles. Alors c'est du total non-sens, hein, j'en parlerai dans la partie suivante. Vous avez aussi des textes qui sont relativement connus, du genre les 12 règles de la soumise, qui entre parenthèses a été désavoué par ses propres créateurs. Vous avez carrément des livres entiers qui sont écrits sur des choses du genre les obédiences ou les écoles du BDSM, avec tout un délire à l'intérieur. Bref, vous pouvez trouver comme ça assez régulièrement passer ce genre de choses, et souvent vous en entendrez parler en fait dans des forums par exemple, ou éventuellement dans des articles lors d'interviews de personnes, avec des références vers ce genre de choses, avec le sous-entendu que c'est donc une évidence, hein. C'est là tout le fond du problème. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, à mon avis, la raison pour laquelle dans le BDSM, on a beaucoup d'idées comme ça, beaucoup de choses qui vous sont présentées comme étant « il y a tel code, tel protocole à suivre, etc. », je pense que les raisons de fond sont toujours les mêmes que pour les mythes toxiques, etc., le folklore toxique. On tourne en rond, donc je vais répéter des choses que j'ai déjà dites hein, dans des épisodes précédents, j'espère que vous allez m'en excuser, mais typiquement, d'où est-ce que ça vient tout ça ? D'abord, classiquement, à la base, l'ignorance sur les réalités du BDSM. L'idée que le BDSM, c'est mystérieux, que ça doit être plein de choses bizarres, extrêmes, étranges, surprenantes, etc. Toute cette aura du BDSM. Un deuxième point qui est particulièrement aigu dans le cas de ces deux mythes, c'est le côté élitisme d'une toute petite portion des personnes qui font du BDSM, une portion infime, hein, je me répète, c'est infime. Des gens qui sont très dogmatiques, qui ont des idées très arrêtées, très étroites sur ce que devrait être le BDSM, les gens qui propagent l'idée qu'il y a un, entre guillemets, vrai BDSM. Ce qui est totalement bidon, hein, je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes. En plus, dans le lot, vous en trouvez qui, par exemple, organisent des soirées, gèrent des clubs, gèrent des associations, écrivent des livres, répondent bien sûr à des interviews, donc forcément, qui ont une visibilité qui est très forte. Le souci étant que, trop souvent, les personnes qui sont dans ces minorités, ou en tout cas qui propagent des mythes, sont des personnes qui sont à fond dans le BDSM, ce sont des personnes qui sont très visibles, comme elles sont très visibles et qu'elles parlent très fort, l'attention est concentrée sur ce que ces personnes-là disent, au détriment de la réalité des choses, qui est le 99,999% des personnes qui font du BDSM. Toujours le même problème. Enfin, un dernier souci, à mon avis, qui est particulièrement important dans ce type de mythe-là, c'est le côté gardien du BDSM. J'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est l'attitude de certaines personnes, notamment les personnes dont je viens de parler, qui posent un certain nombre de barrières comme ça, peu importe que ce soit totalement bidon, avec pour objectif de se présenter comme étant « nous, on connaît le BDSM, vous devez passer par nous, vous devez soit rejoindre nos groupements, soit aller à nos soirées, nos clubs, etc. pour pouvoir faire du BDSM. » parce que les seuls qui font du BDSM, c'est nous. Vous voyez, ils sont gardiens de l'accès au BDSM. Du moins, c'est comme ça qu'ils se présentent. C'est totalement bidon, hein, bien sûr. Je vous rappelle que de toute façon, en France par exemple, vous avez dans les 99,9% de gens qui ne vont jamais dans des soirées, dans des événements BDSM, etc. Donc ça a vraiment aucun sens d'avoir des personnes qui se présentent comme étant gardiens du BDSM. Mais c'est une attitude qui est très répandue dans ce type de milieu, donc élitiste, sectaire, etc. En France c'est aigu, mais ça se trouve dans d'autres pays. Par exemple aux USA, c'est dénoncé très fortement et très souvent aussi, ce genre d'attitude. Seulement voilà, c'est très facile d'avancer comme ça des idées où on essaie de tirer la couverture à soi et tout. Mais quelle est la réalité? Je vais vous en parler tout de suite. Troisième partie, la vérité. Comme toujours, quand je parle de mythe, à la fin, je parle de la réalité des choses. Si j'ai dit que quelque chose est un mythe, c'est parce que c'est pas vrai, évidemment, hein, par essence. Et c'est pas parce qu'une croyance est même relativement répandue qu'elle est vraie. Dans BDSM, il y a beaucoup de mythes. Vous pouvez d'ailleurs regarder un bon nombre de mes épisodes précédents où j'en dénonce un certain nombre. Et croyez-moi, j'en ai encore pas mal à dénoncer dans des épisodes à venir. Pour ce qui est des mythes, donc le BDSM serait codifié, protocolaire, etc. À la limite, j'ai rien à dire, c'est tellement évident que c'est faux. Il suffit de réfléchir un instant pour se rendre compte que ça tient pas la route. Prenons un exemple extrême, celui que je prends d'habitude, hein, le code de la route. C'est le parfait exemple que tout le monde peut comprendre de pourquoi un code a été créé, comment est-ce qu'il existe, il y a des livres, il y a une organisation derrière pour les mettre à jour ces codes de temps en temps, il y a des examens, etc. C'est évident, je pense, pour tout le monde. Et on comprend bien pourquoi ça existe, parce que conduire c'est risqué, donc il fallait qu'il y ait des règles, c'est évident. Mais regardez tout ce qui est hobby, tout ce qui est sexualité, évidemment. Prenons même la cuisine. J'aime bien l'exemple de la cuisine parce que tout le monde peut s'y retrouver un petit peu, même si vous avez dans votre vie jamais fait plus que des crêpes ou des œufs brouillés. Vous savez quand même comment ça fonctionne la cuisine, avec des recettes, etc. Tout le monde sait de quoi on parle quand on parle de ça. Est-ce que vous voyez un code de la cuisine? Est-ce que vous voyez un code du sexe? Non, évidemment. On peut avoir des coutumes, des habitudes à la rigueur, mais il n'y a rien qui soit partagé. Et pourtant, la cuisine, par exemple, c'est vraiment LE domaine, en France en tout cas, c'est encore quelque chose qui a beaucoup de succès, il y a énormément de livres dessus, il y a énormément de sites internet, j'en fréquente certains d'ailleurs, parce que je cuisine. Il y a beaucoup de discussions, de forums, etc. Et comme c'est pas un sujet tabou, évidemment, contrairement au sexe, c'est quelque chose qui est ouvertement discuté. Il y a des magazines, des émissions télé, sur YouTube. C'est un gros domaine et un hobby assez important encore de nos jours. Mais vous êtes d'accord que certaines personnes auront des idées très très précises sur comment on doit cuisiner tel ou tel plat, ça veut pas dire qu'il existe des protocoles ou des codes ou même des recettes qui sont acceptées par tout le monde, parce que si vous connaissez un tout petit peu, vous savez que quoi qu'on regarde, il y aura plein de recettes différentes. Que ce soit la tarte aux pommes, la pizza, le poulet fourré aux douze herbes, pour toutes ces choses, vous trouverez des dizaines de recettes différentes. Vous aurez le chef ceci qui a sa recette, donc ce sera le poulet aux douze herbes du chef machin. Vous aurez peut-être la recette de votre grand-mère, ou bien de vos parents, etc. Bref, il y a beaucoup de variations. C'est évident, hein, mais je replace un contexte pour comparer. Prenons maintenant un sujet déjà plus proche du BDSM, la sexualité en général, le sexe. Est-ce que vous voyez des codes, des protocoles, des règles là-dedans? À part des règles de base de la vie en société, de bienséance, ce genre de choses, bien sûr. Ça compte pas. Mais chaque personne fait un peu ce qu'elle veut, comment elle le sent dans le sexe. Après, il y a plein de pratiques possibles qui sont différentes, mais même sur des choses qui sont pas un peu taboues comme le BDSM, je pense que vous serez d'accord avec moi, il n'y a pas réellement de façons qui sont imposées, il n'y a pas de règles. Et je ne compte pas comme règle de, par exemple, mettre des préservatifs ou des choses comme ça, hein, ou ne pas se comporter comme des sauvages. Ça, c'est des choses que j'estime être des règles de base de la vie en société, ça n'a rien à voir avec des codes et des protocoles. Par contre, pour prendre un contre-exemple, des codes et des protocoles, vous en avez clairement dans, par exemple, tout ce qui est jeu, forcément. Parce que dès que vous avez une compétition ou que vous avez, par exemple, un jeu vidéo, on vous impose un certain nombre de règles dans le jeu, parce que sans ça, évidemment, on va nulle part. Dans les jeux à plusieurs personnes, prenons le tennis, par exemple, s'il n'y a pas de règles, ça devient n'importe quoi. Donc là, on est d'accord. Là, oui, dans ces cas-là, de façon évidente, il y a des codes, des protocoles, des règles, etc. Bien sûr, c'est le contre-exemple. Mais la cuisine n'a rien à voir avec ça. Le sexe a rien à voir avec ça. Le BDSM, pourquoi est-ce qu'il aurait à voir avec ça? C'est pas un concours, c'est pas quelque chose qu'on fait contre les autres, donc il n'y a pas de raison d'avoir des règles, etc. Je le dis depuis des années, hein, vous m'excusez quand je me répète. Le BDSM, fondamentalement, c'est quoi? C'est un terme qu'on utilise pour aider au dialogue, parce que c'est un terme qui est un peu arbitraire, même très arbitraire. Je pourrais en parler pendant des heures de tous les problèmes que ça crée d'avoir un terme arbitraire, mais on utilise le terme pour dire, voilà, je m'intéresse à tel type d'activité sexuelle, sexuel. Quand je dis sexuel, au sens large du terme, parce que le BDSM n'est pas toujours sexuel, mais je ne vais pas entrer dans les détails. C'est donc un ensemble essentiellement de pratiques, et éventuellement de conceptions, de façons de voir un certain nombre de choses, de concevoir des relations par exemple, et c'est tout. Ensuite, ces pratiques, façons de voir la relation, etc. sont extrêmement nombreuses, et chaque personne qui fait du BDSM pique dedans en fonction de ce qu'il ou elle aime, et en fonction aussi, bien sûr, de ce que le ou la partenaire aime, bien entendu. C'est tout. Fondamentalement, le BDSM, c'est juste ça, c'est juste un mot. C'est pas, par exemple, comme une religion, ça n'a rien à voir. En gros, on pourrait demain supprimer le terme BDSM, ça changerait rien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Les personnes continueraient toujours à faire des choses du genre mettre des bandeaux, attacher le copain ou la copine, ou se faire attacher sur le lit, donner des fessées, donner des ordres, faire de la domination mentale. Tout ça, toutes les choses qu'on peut imaginer qui existent dans ce qu'on appelle le BDSM. Si on supprimait complètement la notion BDSM, tout ça existerait toujours. D'ailleurs, évidemment, ça existait avant que le terme BDSM soit inventé. Je vous rappelle, le terme BDSM est apparu en 1991 seulement. De toute façon, il suffit de regarder quelle est la réalité du BDSM. Le BDSM, en France, je vous rappelle, on a dans les 5 millions d'adultes qui en font, avec toutes les intensités possibles, du plus léger au plus intense, toutes les fréquences possibles, toutes les conceptions possibles, toutes les envies, toutes les pratiques. C'est très varié, c'est très flou, mais c'est très répandu. La plupart de ces personnes ne se renseignent pas sur BDSM, ne lisent pas sur BDSM. Parfois, ne savent même pas que ça s'appelle du BDSM. Presque aucune des personnes qui font du BDSM en France ne sortent dans des événements. Même des personnes qui sont à fond dedans. Prenez mon exemple, moi je suis à fond dans le BDSM, évidemment. Les événements, ça m'intéresse pas, donc je sors pas. À part quelques sorties très exceptionnelles et qui sont liées au fait que j'ai mon site internet dédié au BDSM, en dehors de ça, je sortirai pas du tout. Donc même des personnes qui sont à fond dedans ne sortent pas forcément. Et puis de toute façon, vous avez le problème que c'est coûteux, hein. Tout le monde a pas les moyens, et puis beaucoup de personnes, tout simplement, n'ont pas d'événements à proximité, donc c'est très difficile d'accès géographiquement. Donc même si vous avez envie de sortir, vous pouvez pas, donc vous sortez pas. Alors à votre avis, dans ce nombre énorme de personnes, combien il y en a qui ont même entendu parler de ces soi-disant codes protocoles dont je parlais tout à l'heure? Le chiffre est dérisoire. Les seules personnes qui en entendent parler, ce sont les personnes qui vont se renseigner sur les forums qui tombent sur des références à cette minorité de personnes qui disent « c'est comme si, c'est comme ça le BDSM, c'est comme ça que vous en entendez parler ». Sinon, vous saurez pas que ça existe. Moi, avant de me renseigner un peu plus sérieusement sur BDSM, je vous avoue, hein, y a pas mal de choses, je savais même pas que ça existait. Et du BDSM, j'en faisais depuis la fin des années 80 pourtant. Bref, on n'a pas du tout besoin de tout ça pour faire du BDSM. Après, s'il y a des gens à qui ça plaît de les faire, ça c'est une autre affaire. Mais c'est pas obligatoire du tout. C'est pas répandu du tout, c'est pas comme ça le BDSM entre guillemets. Pour aller un peu plus loin, la question qui se pose c'est si vraiment il existait ces codes, ces protocoles, si réellement c'était quelque chose de fondamental, de répandu, d'indispensable, etc. Qu'est-ce que ça impliquerait? Ça impliquerait de façon évidente que derrière vous avez, comme pour le code de la route par exemple, vous avez forcément des organismes, des gens derrière qui ont écrit le code de la route, qui l'ont diffusé, et vous avez des obligations hein, bien sûr de le suivre. Mais tout ça, ça n'existe pas dans le sexe et encore moins dans le BDSM. Le BDSM c'est vraiment quelque chose qu'on fait en fonction de ces goûts, ses envies. Il n'y a personne, absolument personne, qui puisse vous dire et qui ait le droit d'ailleurs de vous dire que vous devez faire ci, ou vous devez faire ça, ou vous devez pas faire ci, ou vous devez pas faire ça. Dans le BDSM et dans le sexe en général, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas même d'association dans le sens une association qui fédérerait tout ça, comme par exemple la fédération de tennis, ce genre de choses. Vous avez rien de tout ça dans le BDSM. Certes, vous avez des petites associations à droite à gauche, mais ça ne représente rien comparé à quelque chose de sportif, par exemple. Il n'y a pas de communauté dans BDSM, ça fait des années que je le dis, il n'y a pas de consensus, il n'y a personne qui centralise, il n'y a pas d'autorité. Vous trouvez des petits groupes, bien sûr, hein, de personnes qui disent très fort « oui, nous, on représente le BDSM, etc. » Aux USA, par exemple, j'en ai vu passer un certain nombre. En France, il en existe un certain nombre de sectes, en fait, hein, qui prétendent représenter le BDSM. Mais ça suffit pas, il suffit pas de dire qu'on représente le BDSM, sinon moi je vous dis demain, moi je représente le BDSM, ce qui est faux évidemment. Tout ça, ce sont des idées, des mythes donc, qui sont propagés par une toute petite minorité qui généralement y trouve un certain intérêt, je l'avais dit tout à l'heure. C'est ensuite un petit peu propagé parce que ces personnes sont donc très vocales et que sur les forums ou bien lors des événements, on en entend parler, mais sans ça, on saurait même pas que ces mythes-là, ils existent, tellement les personnes qui sont à la source, ou du moins qui les propagent, sont peu nombreuses. Parce que c'est ça le problème fondamental, c'est, il suffit pas de dire que quelque chose existe pour que ce soit vrai. Si tout ça c'était vrai, eh bien, il leur suffirait à toutes ces personnes de m'amener une preuve. Allez-y, je l'attends la preuve. Je suis pas le seul, hein, à dire que tout ça c'est bidon, je le précise. Vous pouvez trouver dans les forums des personnes qui dénoncent aussi assez vertement ce genre de choses en disant, même en faisant des recherches, on ne trouve pas de traces, historiques notamment, du genre, oh, ça fait des siècles que ceci, cela existe. Vous pouvez faire des recherches, hein, vous trouverez rien, parce que il n'y a rien à trouver. Tout ça c'est bidon. Il suffit pas d'affirmer que quelque chose est vrai pour que ce soit vrai. Il faut pouvoir quand même le prouver un minimum. Or, pour des choses aussi importantes que ça, ça devrait être super simple à prouver. Si c'était vrai, tout ça, ça fait longtemps, moi qui fais des recherches notamment, et vous pourrez trouver sur les forums BDSM un certain nombre de personnes qui diront aussi avoir fait des recherches pour ce genre de choses, et vous verrez que le résultat, c'est zéro, il n'y a rien à trouver, point. Je vais vous prendre un exemple qui est particulièrement frappant. J'ai même rédigé un article sur le sujet. C'est un livre qui a connu son heure de gloire, de célébrité dans certains milieux très restreints du BDSM, parce que ce qu'il disait était frappant et que ça a pas mal résonné pour un certain nombre de personnes qui se sont emparées de ce livre totalement apocryphe et qui ont pris au sérieux tous les délires qui étaient dedans et qui ensuite ont essayé de propager la vérité, c'est-à-dire les idées complètement délirantes du bouquin en question. Ce livre, il présentait, soi-disant, des obédiences ou des écoles, si vous préférez, du BDSM. Alors, ce livre, je l'ai analysé et dénoncé extrêmement vigoureusement dans un article dans lequel j'ai repris plein de passages pour montrer que l'attitude de l'auteur était absolument hyper élitiste, toxique, bourrée d'une arrogance absolument effarante et bourrée de délire, parce que tout ce qu'il disait dedans était complètement délirant. Et il y a eu des personnes, dont moi-même, qui ont fait des recherches pour vérifier s'il y avait quoi que ce soit qui était dit dans ce livre qui était vrai, si réellement il existait des écoles BDSM avec une école anglo-saxonne, une école ci, une école ça. Toutes ces recherches ont mené au même résultat, zéro. Ça n'existe pas. Ce bouquin, c'est un ramassis d'inventions, de délires. Donc une seule personne a inventé ce genre de choses, mais des gens ensuite s'en sont emparés, ont cru que c'était la réalité sans aucune preuve, et l'ont propagé. Je dois reconnaître que maintenant, on n'en parle plus très souvent. De temps en temps, on voit passer une référence à ce sujet, mais c'est devenu rare. Mais ça, c'est pour moi peut-être un des meilleurs exemples, parce que comme il y a un livre derrière, vous avez vraiment quelque chose de concret hein, à quoi vous rattacher, et vous pouvez vraiment faire des recherches très précises, qui prouvent hein, clairement, à 100%, hein, que c'était bidon. Dans le BDSM, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de choses qui soient communes, qui soient acceptées par tout le monde. Il n'existe pas d'esprit de groupe réellement. Il n'existe pas d'organisation, rien. On peut s'en féliciter, on peut trouver que c'est un problème, ça c'est une autre discussion. Mais à l'heure actuelle, et en France en particulier, vous avez rien de tout ça. Et toutes ces notions donc de protocole, code, etc., vous avez personne derrière à part quelques groupuscules minuscules. Et je me répète, dire des choses même de façon très vocale, ça prouve pas qu'elles existent. Si demain, j'écris dans un de mes articles que il existe un protocole très connu dans le BDSM, qui est respecté par tout le monde, et qui consiste, avant de faire du BDSM, à tourner trois fois sur soi-même, tout en disant « Larry est le plus grand, Larry est le meilleur, Larry est le maître du BDSM ». Bon, vous avez compris que je blague, évidemment. C'est tellement ridicule que vous y avez pas cru une seconde, évidemment. Et même si j'écrivais un article comme ça, personne ne prendrait ça au sérieux, enfin j'espère. Mais là, je blaguais. Mais maintenant, pensez à une autre option. Imaginez, demain, j'écris un article où là, je suis beaucoup plus sérieux. Je prétends, c'est totalement bidon, j'ai inventé, qu'il existe un protocole que toutes les personnes appliquent avant de faire du BDSM, je le dis dans mon article, et là, au lieu de délirer sur Larry ceci, cela, ce qui est totalement idiot, je dis quelque chose du genre, les personnes vont prendre un carnet dans lequel elles vont noter la date, l'heure, les personnes avec qui les choses sont faites, et l'ordre exact des pratiques. Vous voyez quelque chose qui est presque crédible, hein. Ensuite, étant donné que mon site est quand même relativement connu, imaginez ce qui se passera au bout de quelques années. Tôt ou tard, il va y avoir des gens qui vont me croire, qui vont propager cette idée dans des forums. J'aurai peut-être, par exemple, l'occasion de parler de ça, de présenter comme étant une vérité lors d'interviews. Donc ça finirait sournoisement, en grignotant comme ça, par se répandre. Dans des articles, vous trouveriez des discussions sur des forums, etc. Et au final, ce que je veux expliquer, et vous comprenez, je pense, là où je veux en venir, mon délire, mon mensonge, finirait par prendre racine et devenir vrai par force de répétition de personnes qui ont juste eu uniquement comme preuve entre guillemets cet article totalement bidon, hein, je le reconnais, et ça deviendrait une réalité. Mais on est d'accord, c'est totalement faux. Seulement voilà, sur la durée, à force de répéter, et si en plus il y avait des personnes qui avaient l'intention de propager ça, ça finirait par devenir vrai pour beaucoup de personnes. C'est exactement comme ça que tous les soi-disant codes protocoles que présentent les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure ont propagé ces idées. C'est par répétition, etc. Mais derrière, il n'y a rien. Vous pouvez trouver évidemment un texte, un email, ceci, un post dans un forum, ce genre de choses. Mais ce sera aussi vrai que mon pseudo-article fictif, hein, bien sûr, je n'ai jamais fait ça et je ferai jamais ça, bien sûr, dans lequel je disais donc que tout le monde prend des notes, etc. Ce qui est totalement bidon, ça n'a aucun sens. Je voulais juste vous montrer cet exemple fictif mais potentiel qui pourrait exister si je le voulais, pour vous montrer à quel point ce serait en fait relativement facile de faire prendre des vessies pour des lanternes à pas mal de gens. Sur la durée, au bout de plusieurs années, ça deviendrait la vérité, mais si on fait une enquête, on s'apercevrait très vite que c'est bidon. L'ennui, c'est que la plupart des gens n'ont pas les moyens ou l'envie, ou l'idée tout simplement qu'il y a des choses qu'on leur dit qui sont bidons. C'est pour ça que les mythes existent et persistent. Il suffit pas de dire quelque chose pour que ce soit vrai, vous m'excusez si je me répète, et répéter les choses pendant des années parfois fait qu'elles prennent une vie par elles-mêmes, mais dès qu'on fouille un tout petit peu, on s'aperçoit que c'est bidon. Les deux mythes dont je viens de parler sont clairement bidons. Il suffit d'ailleurs de réfléchir un instant, et dès qu'on voit un tout petit peu qu'on parle de sexe, de sexualité, de BDSM, s'il y avait vraiment des règles, des protocoles, etc., ce serait très facile de le vérifier. Il y aurait des sites sérieux, des livres sérieux, etc. Il y a rien de tout ça qui existe. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'organisme, il n'y a rien de rationalisé là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut. Du coup, évidemment, ça n'a aucun sens de parler de code et de protocole. C'est complètement absurde. Mais le problème, c'est que c'est pas juste absurde. Le problème, c'est que c'est nocif et toxique. Et ça permet un tout petit peu trop facilement aussi, je l'avais dit tout à l'heure, à certaines personnes, donc, de tirer la couverture à elles et de dire c'est moi le BDSM, ou bien c'est nous qui sommes le BDSM. Avec évidemment plein d'effets toxiques. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Si vous commencez le BDSM, il y a de quoi hésiter si on vous dit il y a plein de protocoles, il y a plein de codes, il y a plein de trucs à connaître, il faut lire des bouquins de 500 pages, etc. Ça va pas vous inciter à aller plus loin. Moi, au contraire, quand je présente le BDSM, je dis l'inverse. Je dis vous inquiétez pas, le BDSM, c'est très accessible, il n'y a pas de livre de règles, il n'y a pas de trucs de 500 pages à lire pour savoir faire du BDSM. Il suffit essentiellement d'utiliser un petit peu son cerveau et son bon sens, de se renseigner quand même un petit peu, ça aide, par exemple en lisant mon site, et c'est tout. BDSM, c'est ça en fait, y a pas besoin d'aller plus loin. Mais vous trouverez toujours des gens pour avoir des attitudes élitistes, sectaires, et pour tirer des avantages de vous présenter les choses comme étant beaucoup plus compliquées qu'elles ne le sont. Alors que le BDSM, hein, je me répète, c'est pas compliqué, c'est pas dangereux, c'est pas extrême, c'est accessible à tout le monde. Malheureusement, il y aura toujours des personnes qui refuseront de reconnaître ce genre de vérité, ça complique fortement les choses, c'est pourquoi il est très important de combattre les mythes. Ces deux-là font partie de ceux qui sont particulièrement négatifs et nocifs, donc je voulais leur dédier un épisode spécial pour, une bonne fois pour toutes, remettre les choses en place, tout remettre à plat, et bien vous montrer que tout ça, c'est bidon. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique Contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez trouver mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.